Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un puits, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut, bonjour, bienvenue dans TVNR, sur les 92.2 comme ils disent.
Salut Mishmouchi, ouais.
Yo.
Bonjour à tous aussi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue en ce dimanche 1er novembre de 2015.
Et donc aujourd'hui, presque fête des morts. Hein,
ouais, tout à fait, ouais. Une avant fête des morts.
Une avant fête des morts. Donc pour être dans l'air du jour, hein, on va parler de l'air du temps qui sent la merde, hein, faut bien le dire.
Et la mort.
Et la mort, voilà. Et donc, c'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui de fascisme et de réaction. C'est un peu dommage, on va leur donner un peu d'importance, un peu plus qu'ils n'en ont déjà et qu'ils n'en méritent surtout. Ouais. Mais face à l'annonce d'une manifestation à Pouilly-en-Ossois la semaine prochaine, pour demander le départ des migrants qui logent là-bas.
Ouais, dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Et ben, il nous a paru important d'en parler aujourd'hui. Donc on va se plonger un peu sur cette question.
Pouilly-en-Ossois, pour préciser, juste pour les personnes qui ne connaissent pas tellement Dijon ou ses alentours, c'est à 35 km d'ici.
Ouais, c'est ça. C'est direction Paris.
Un petit bled de quoi, combien d'habitants? 2000
1600, je crois. Ouais. 1600 précisément. C'est un village comme de ces villages assez tristes où, qui sont organisés autour d'une nationale. Donc le village s'étale en longueur, c'est pas de l'habitat groupé, quoi. C'est pas un hameau centré par exemple autour de l'église ou du lavoir
du bistrot.
Comme ça peut être le cas dans pas mal de villages. C'est vrai que le bistrot a tendu à remplacer l'église assez rapidement et c'est vrai qu'on trouve souvent des bistrots sur les places centrales des villages. Pouilly-en-Ossois, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, il y a un bistrot au centre du village quand même, mais le village est complètement étalé dans la longueur le long de la route. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, ça veut dire que c'est un village qui a été créé par les flux, créé par la circulation, créé par le mouvement, et aujourd'hui donc il se retrouve au cœur de l'actualité pour en tout cas c'est pas son refus des migrants parce que
c'est pas vraiment le cas là-bas, en tout cas des gens qui habitent sur place.
C'est pas les gens qui habitent sur place, mais en tout cas il se retrouve sous le feu des projecteurs par refus de ces gens-là.
Ouais. Comment on pourrait dire, par la prise en otage des populations.
C'est vrai que je pense qu'ils le vivent un peu comme ça là-bas.
Ouais.
Donc voilà, donc aujourd'hui, donc on va parler de ça, hein, on va rester donc dans le thème de la morbidité. On va voir un peu, d'abord qu'est-ce que c'est que ces partis-là qui appellent à la manifestation, et puis on parlera un peu plus généralement de la puissance des mouvements fascistes dans notre époque. Puis on verra un peu aussi quand même qu'il y en a comme Emmaüs qui essayent de se dépêtrer de tout ça, et qu'il y a des trucs plutôt enthousiasmants aussi qui émergent autour de la question des migrants.
Et des personnes qui pour le coup prennent parti un peu dans le sens inverse que de celui de l'air du temps.
Ceux qui vont à contre-courant, quoi.
Oui, exactement.
We are.
Voilà, c'était Ultra Zouk du rythme qui envoie. C'était Dance Broccoli Dance, le nom de la chanson, et c'est sur le EP Épuse. Voilà, Ultra Zouk, petite musique de dimanche.
Ça bouge.
Ça bouge sur le 92.2. Ok, so what?
So what? Alors bon, bah aujourd'hui, on a oublié de dire ça dans la présentation, mais ça va être antifasciste. C'est-à-dire, ça va être autre chose que le fascisme, l'ordre, la rigueur. Là, ça va être assez bordélique comme émission.
Tout à fait. Ça va couler, si. Ouais.
Donc, on va partir un peu dans un sens, puis dans l'autre, puis on verra comment on va faire ça. Mais donc, pour ce qui est de cette manifestation de la semaine prochaine, on avait dit qu'on commencerait par parler de ça et des partis qui organisent la manifestation. Donc, suite à l'installation de ces migrants sur décision de l'État dans une ancienne gendarmerie à Pouilly-en-Ossois.
Transformée en CADA, donc, en centre.
Ouais, dans centre d'accueil.
Demandeurs d'asile.
Donc, c'est pratique en plus, Pouilly-en-Ossois, parce que justement, c'est à l'écart des villes, enfin, l'écart des grands centres urbains, et en même temps, c'est pas trop loin pour qu'ils puissent mener leur démarche. Donc, l'État s'est dit génial, on va les mettre là. L'État décide de placer une soixantaine de personnes qui étaient à Calais, dans la jungle calaisienne, dans cette ancienne gendarmerie de Pouilly-en-Ossois. Bon, l'installation se fait pas forcément facilement, hein, parce que bon, c'est un village où il y avait sans doute beaucoup de gens qui avaient jamais vu de personnes de couleur. Donc bon, ça a donné lieu à des situations un peu particulières, un peu cocasses, où bon ben voilà, il y a eu des émissions télé et journalistiques qui ont été faites sur leur installation, où il y a des gens qui disent bon, moi j'ai aucun problème, mais bon, et puis en même temps qui étalent un peu tous les fantasmes que peuvent générer évidemment l'arrivée d'une population complètement étrangère. Étrangère au lieu. Et puis petit à petit, à travers matchs de football et visites sur place, bon, bah, les gens s'y font. Et il y a quelques temps, il y a un parti en particulier, qui est le Parti de la France, qui est un parti créé par Karl Lang en 2009. C'est une espèce de parti dissident du Front National qui regrettait la dédiabolisation du Front National, mais qui par ailleurs est constitué d'anciens élus du Front National, hein, qui tient exactement les mêmes lignes et les mêmes positions que le Front National. C'est donc ce parti s'est donc intéressé au fonds de commerce que pouvait représenter une telle situation à Pouilly-en-Ossois.
L'arrivée des migrants dans un bled bourguignon.
C'est ça, dans la campagne lointaine et reculée, où on se dit souvent que le FN fait des gros scores, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que les partis d'extrême droite font les plus gros scores dans les zones périurbaines, quoi, les espèces de zones résidentielles où il n'y a plus aucune vie, qui sont mornes et où les gens sont complètement dépendants de leurs allers-retours quotidiens à la ville où ils vont travailler et de leur téléviseur qu'ils retrouvent le soir
avec grand plaisir.
Et donc c'est là que le FN fait le plus gros score, pas forcément donc dans les villages de campagne. Toujours est-il qu'ils ont quand même flairé l'intérêt d'une telle affaire, enfin d'un tel événement. Et ils ont organisé une première manifestation où ils ont été jusqu'au centre, ils ont jeté des bouteilles de verre et des pierres sur les vitres, brûlé des poubelles. Et puis ils réorganisent une manifestation donc samedi 7 novembre à 11h là-bas pour
devant la mairie donc.
Devant la mairie, autour d'un ralliement explicite qui est migrants dehors. Où donc le but est de faire peur à ces migrants pour montrer je sais pas quoi, leur toute puissance d'abrutis
nationalistes.
Je
crois qu'ils avaient aussi notamment organisé des diffusions de tracts, il me semble, sur les marchés.
Ouais, c'est
voilà,
possible.
Ils ont fait tout un travail aussi de, je dirais pas sensibilisation, mais je sais pas comment, d'allumer un peu la poudre. Il y a tout un voilà. Mais alors, je sais pas précisément. Si
c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affiches collées aussi dans le village, l'affiche du Parti de la France.
Ouais.
Donc, comme je disais, il a été créé en 2009, donc c'est le FN Calais historique, en gros. Et l'autre parti est le Nouvelle Droite Populaire, qui est un parti qui a été créé à peu près à la même époque, autour de 2008-2009, des suites de la lente éviction de Jean-Marie Le Pen du FN, où c'est des partis qui ont des accords suivant les lieux avec le Front National. Hein, et donc la Nouvelle Droite Populaire, ils avaient fait campagne autour au dernier régional avec la liste Non au Minaret, qu'il y avait en Franche-Comté, en Lorraine, en Alsace, en particulier dans l'Est de la France. On écoutera d'ailleurs une petite plongée striptease dans l'extrême droite alsacienne.
Ça, c'est ce qu'on vous a concocté pour la deuxième partie d'émission. Et du coup, donc, il y a un appel qui est lancé pour samedi prochain à rallier ce rassemblement contre les migrants. Une des choses qui s'organise, là, je crois, en face de ça, c'est notamment un rassemblement à venir perturber, en tout cas, ce rassemblement organisé par le Parti de la France.
C'est ça, ouais. Je crois qu'il y a donc l'idée de se retrouver là-bas un peu avant et puis d'affirmer ce qui fait notre ultime différence avec les partis fascistes, c'est-à-dire notre plaisir à être ensemble et à faire la fête et à être différents les uns des autres et pourtant à être capable de s'apprécier ou de se mettre sur la gueule quand les différences sont trop grandes, ce qui arrive aussi, hein, mais... En tout cas, d'être vivant et vivant ensemble, donc convivial, c'est un peu l'idée de ce rassemblement. Je crois que c'est pas une contre-manif avec casque de moto et batte de baseball, mais c'est plutôt axé sur notre affirmation à vivre ensemble, quoi, capable de vivre ensemble.
C'est un rassemblement qui s'inscrit dans, je crois, la lignée de ce qui avait été fait contre Jour de colère il y a maintenant deux ans. Ouais, le 5 avril, je crois qu'il y avait eu une manifestation, pour le coup une contre-manifestation, en jour et place d'un rassemblement qui avait été appelé par les organisateurs de Jour de colère, qui déjà, à l'époque, était une émanation un peu de tout ce...
Ouais, cette nébuleuse d'extrême droite.
Cette terre ambiant
identitaire.
Droite. Et donc, l'idée est de faire un jour de fête, et d'appeler le même jour, même heure, enfin même avant en fait, pour prendre place, appuyer et empêcher ce rassemblement de fascistes. Peut-être je peux vous lire l'appel, donc on a reçu un appel, on vous le lit. Jour de fête en solidarité avec les migrants à Pouilly, pour l'accueil des migrants. Ce samedi 7 novembre, nous organisons une journée de soutien à partir de 9h30, et pour une bonne partie de la journée, place de la Libération, avec un petit déjeuner le matin, puis un repas africain, des concerts, des matchs de foot aux couleurs internationales, et d'autres surprises. C'est l'occasion de se retrouver entre personnes solidaires et désirant simplement vivre ensemble. Nous souhaitons partager un moment de rencontre convivial avec les migrants à Pouilly et invitons donc largement les soutiens de la région et toute personne qui se sente concernée par l'accueil des migrants. Contre les mouvements racistes, cette fête remplacera alors l'événement prévu par des groupes haineux et racistes qui voudraient faire de Pouilly le centre de leur marche au pas. Nous ne laisserons pas la place publique à ces groupes néofascistes qui tentent de semer la peur et les fantasmes désignant responsables et boucs émissaires. Nous préférons opposer à cela la joie et la fête. Soyons nombreux à exprimer notre soutien et signifier notre rejet de ces idées nauséabondes, parce que le racisme n'a pas le droit de citer. Rendez-vous à 9h30, place de la Libération à Pouilly, ce samedi 7 novembre.
Non, l'appel est très bien, ouais.
Alors, en tout cas, ça a le mérite de faire exister quelque chose d'autre que juste ce rassemblement de fachos. D'ailleurs, ça me fait penser que, en fait, hier, il y avait, puisqu'on est dans le thème antifascisme, à Besançon, il y avait hier, mais en fait, j'en sais pas bien plus, mais une marche, une manifestation contre un groupe un peu similaire qui s'organise à Besançon pour foutre le bordel.
Et notamment qui fait des attaques sur des gens dans la rue, ouais.
Des gens et là,
et une librairie.
Une librairie, ouais. L'autodidacte, qui est une librairie affiliée Fédération anarchiste, là, voilà, qui sont un peu.
Une librairie alternative.
Alternative, exactement. Voilà. Bon, voilà, pour ce qui est de Pouilly en Auxois et de l'actualité bourguignonne.
Et donc, comme il est question de cette manifestation à Pouilly en Auxois, j'ai essayé de me rendre là-bas pour, puisqu'on fait du journalisme d'investigation très sûr. Poussé, hein, donc voilà, de me plonger dans les méandres de cette campagne peu attirante, mais bon, ma foi, il fallait le faire, donc j'y étais. Et malheureusement, ça a été un échec assez monumental du fait que les gens là-bas sont fatigués de voir des journalistes, en fait. Bien que je ne sois pas un journaliste, en fait. C'est pas vrai, c'était une blague, hein, mais malheureusement...
Ils n'ont pas senti la différence, quoi.
C'est ça.
Ils n'ont pas marqué assez.
Ils ont vu un micro et ils n'ont pas compris la différence. Et donc voilà, donc par ailleurs, j'ai quand même discuté avec quelques personnes là-bas, qui, en particulier, donc le gérant du Leader Price, qui est, ma foi, contrairement à beaucoup de gérants de petits magasins en général, est un type assez sympathique. Ça vient du fait qu'il n'a pas été patron et commerçant toute sa vie. Qui, semble-t-il, il a été une bonne partie de sa vie ouvrier dans l'automobile à Sochaux. Et donc, il a côtoyé là-bas des centaines de nationalités. C'est pas une exagération. Il y a un film qui avait été fait là-dessus, justement, sur l'usine Peugeot à Montbéliard et la vie qu'il y avait autour, et où il y avait là-bas plus d'une centaine de nationalités qui travaillaient dans les usines. Et donc voilà, lui, c'est des gens qu'il a côtoyés et donc il a un regard qui est assez intéressant là-dessus. Et bon, lui, ça lui pose évidemment aucun problème que ces gens soient là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait ressortir par contre que ce qui lui pose problème, c'est ces groupes d'extrême droite qui eux viennent d'Alsace, qui eux viennent de Lyon, qui eux viennent de Beaune ou de Paris, et donc qui sont pas du tout du coin et qui au nom des gens du coin commettent des actes qui lui semblent poser problème, mais qui surtout en plus sont un peu inhumains, quoi. Et ça, le faire au nom des gens du coin, ça lui posait problème. Et voilà, j'ai vu un autre monsieur qui semblait avoir envie de parler, puis en même temps non, et qui, bon, était là à attendre je ne sais pas quoi, un peu comme dans une pièce de théâtre assez célèbre. Il attendait avec sa casquette Castrol et sa veste Eagle lubrifiant, là. Et bon, bah, lui, c'est pareil, il voyait aucun problème. Il disait que c'était des gens, bon, qui disaient bonjour, qui étaient sympas. Et puis qui, au fond, malheureusement, une vie sans doute assez proche, parce que bon, bah, eux aussi, ils tuent le temps en faisant des matchs de foot, en attendant assis sur un muret, à regarder les feuilles tomber et le soleil se coucher. Mais bon, c'est les joies de la vie à la campagne quand malheureusement on n'a pas d'argent pour faire quoi que ce soit et qu'on travaille pas et qu'on a juste du temps à attendre. Ce qui d'ailleurs me fait penser que la principale critique des migrants, et bon, les migrants, pour ce que eux m'ont dit et ce qu'ils ont dit dans les différents articles de journaux qu'on a pu se procurer, eux, ce qu'ils déplorent, c'est l'absence totale d'activité culturelle ou sportive. Ouais. Et entre autres, ils demandent, une de leurs revendications, enfin, si on peut dire, c'est pas vraiment une revendication, mais une de leurs demandes, c'est de pouvoir accéder à la salle des sports de Pouilly-en-Ossois, ce qui, semble-t-il, pose problème pour le moment. C'est sûr que le temps est dur aussi pour eux là-bas, quoi.
Il y a un gars qui est venu dernièrement causer un peu de ça, qu'une personne qui est au centre d'accueil de demande d'asile à Pouilly, et qui disait qu'effectivement, à part quelques bons insultes, effectivement, et actes un peu minoritaires de commerçants qui, comme au tabac de Pouilly en Auxois, a priori, ne souhaiteraient pas servir les migrants, etc., etc., à part ça, effectivement, les gens sont plutôt cordiaux et agréables dans la rue. Je pense à ça par rapport au gérant du Lidl, parce qu'en fait, effectivement, c'est des gens qui habitent là-bas, se mettent à côtoyer tout le tissu local, quoi, des structures locales là-bas. Et notamment, je crois que le Lidl Prey est vraiment pas loin du CADA, et du coup, qu'ils y passent assez souvent. Et que voilà, il y a des échanges qui se font à cet endroit-là. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, que le gérant, est moins réticent, parce que finalement, il se passe des choses. Ils s'y rencontrent. Voilà, ils sont sur le parking. Ils se vivent quelques bouts.
C'est vrai ça, c'est marrant. C'est d'ailleurs sur la place, le Lidl Prey, il est sur la place de la Libération, donc qui est cette place où appellent à la manifestation les Tinasillons la semaine prochaine. Et donc c'est vrai qu'on voit, il y a des migrants qui traînent un peu autour. C'est vraiment le lieu de sociabilité, en fait, pour eux, du village, quoi, parce que c'est l'endroit où ils vont chercher les recharges téléphones, parce qu'il y a le tabac à côté, etc. Et où, en fait, bon, ben, c'est vaguement convivial comme endroit. Et donc du coup, là, c'est l'endroit un peu où ils passent, où ils discutent. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un peu de sociabilité qui se crée à cet endroit-là. Et tout de suite, ça fait tomber des barrières. Mais après, ce qui est marrant, c'est que dans ce que disent les migrants, ça dit aussi quelque chose de Pouilly-en-Ossois et un peu de la misère sociale et culturelle qu'il y a là-bas. Il n'y a plus aucune structure dans ces villages qui permet aux gens de se croiser, de se voir, de discuter. Et qui, du coup, ferait que, ben, il n'y a pas cette tentation du repli sur soi et sur la sphère privée qu'on veut défendre, si nécessaire, à la chevrotine, parce qu'on n'a plus que ça, quoi. On n'a plus que son espace privé minable, mais bon, on s'y accroche quand même. C'est vrai que c'est des villages, rien que pour aller interroger les gens, c'est pareil, c'est pas facile non plus, parce que il y a rien, quoi. Il y a pas de vie sociale, quoi, dans l'espace public.
Toi, tu disais que tu avais été un tournoi de foot, ou en tout cas qui...
Non,
croisé des gens là-bas,
ou... arrivant là-bas, ouais, ils jouaient au foot, ouais, ça joue au foot, c'était un peu animé, c'était un peu marrant. Okay. Il y a des cris, voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était presque l'endroit le plus vivant de Pouilly, hein, la gendarmerie, là, ils jouaient dedans. Et bon, bah, il y a des gens qui passent de temps en temps, comme ça, et ça amène un peu de vie, mais bon, après, ça faire un match de foot en fin d'après-midi, ça suffit pas quand même, voilà, à créer du lien avec les gens sur place. Puis non plus, ça suffit pas pour sortir les gens sur place de leur isolement relatif et de leur misère existentielle, quoi, si je puis me permettre jeter un jugement comme ça sur leur vie, mais voilà, c'est vrai que c'est pas, ça semble pas facile, quoi, ce genre de village. Peut-être qu'on peut se lancer dans le premier une écoute de Brassens, puis suivi de...
Ah oui, tout à fait, cet enregistrement qu'on a trouvé sur le net, comme on dit. Et un enregistrement donc, qui suit une candidate FN de 18 ans à Guebwiller.
À Guebwiller, oui.
Voilà, en Alsace.
En Alsace.
Guebwiller, et donc c'est effectivement ce que tu disais tout à l'heure, un peu striptease, quoi. C'est un peu rentrer dans le quotidienneté de ces gens-là.
Ouais. Mais c'est cette quotidienneté qui rend en même temps presque le texte intéressant, où du coup ça permet un peu de comprendre le comment de justement ces idées racistes se sont banalisées au cours des années 80-90, qui étaient des décennies un peu réactionnaires, contre-révolutionnaires, et où petit à petit en face les hypothèses révolutionnaires sont tombées, la puissance des mouvements d'émancipation est tombée, et du coup... Bon bah voilà, on va le voir, elle parle de sommet 68, etc. C'est un peu leur revanche, quoi. Et ça s'ancre dans un quotidien où ce qu'on n'entendra pas, c'est par exemple les petits discours sur le fait la poule, voilà, enfin, je sais pas quoi, son parc arboré chez elle, tout un tas de, comme ça, de banalités qui peuvent sembler sans intérêt, mais qui ont leur petit intérêt quand même, parce qu'elles, justement, elles ancrent la xénophobie dans la banalité, quoi, dans l'ordinaire.
On n'était pas des barbes bleues, ni des pelés, ni des galeux, porteurs de parasites. On n'était pas des spadassins, on venait du pays voisin, on venait en visite. On n'avait aucune intention de razzia, de déprédation, aucun but illicite. On venait pas piller chez eux, on venait pas gober leurs œufs. On venait en visite. On poussait pas des cris d'indiens, on avançait avec maintien et d'un pas qui hésite. On braquait pas des revolvers, on arrivait les bras ouverts. On venait en visite. Mais ils sont rentrés dans leur trou, mais ils ont poussé les verrous dans un accord tacite. Ils ont fermé les contrevents, caché les femmes et les enfants, refusé la visite. On venait pas leur imposer notre manière de penser, pas leur prendre leur site. On venait leur dire en passant un petit bonjour innocent. On venait en visite. On venait pour se présenter, on venait pour les fréquenter, pour qu'ils nous plébiscitent, dans l'espérance d'être admis et naturalisés amis. On venait en visite. Par malchance, ils n'ont pas voulu de notre amitié superflue, que rien ne nécessite. Et l'on a refermé nos mains, et l'on a rebroussé chemin, suspendu la visite.
Mai 68, pour moi, c'est le début de la fin. La nouvelle génération qui paye les frais de mai 68, moi, Jean, cette génération-là, qui sommes nés dans les années 90, on va payer les frais de ces 68ards, cette génération d'enfants gâtés. J'espère qu'ils payent d'une manière ou d'une autre ce qu'ils ont fait, et j'espère que la France qu'on va reconstruire, on la reconstruira sur de bonnes bases. Tout ce qui avait, tout le travail qui avait entre autres été mené par le fait qu'on ait fait deux guerres, qu'il y ait eu De Gaulle, qui avait des valeurs travail, patrie, amour de la nation, etc. Mais 68, ça a cassé tout ça, tout ce qu'on avait réussi à construire de bénéfique pour instaurer une société où plaisir, où loisir était roi.
On va pas dire de gros mots, mais c'est une génération de petits cons, d'enfants gâtés, mais donc mai 68 pour moi c'est tout. Voilà.
Et puis même
c'est
rien historiquement. Si on replace ça dans le contexte européen de l'époque, alors quand simultanément il y a un printemps de Prague qui se joue contre voilà une dictature communiste qui a été sanglante, mais c'est risible de voir nos petits cons de l'époque en France se révolter contre papa et maman qui les ont trop pourri gâtés. Mais je sais pas, en fait j'espère pas qu'ils se rendent compte d'à quel point ils nous fondent, parce que sinon ils en mourraient. Voilà. Ça sent bon, hein. Est-ce que je peux faire au café, moi? Alors qu'à l'heure actuelle, tout ça est en train de se casser le nez, quoi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut dire, mai 68 a été une catastrophe. Les derniers qui vous le diront seront effectivement les derniers 68 heures qui restent, mais j'espère qu'il n'y en a plus pour longtemps.
Elle est en train de te demander du pain.
Mais non.
Si.
Elle discute.
Non, je te dis qu'elle se plaint. Elle me discute.
Oh, salut les filles.
Oui, non, c'est parce qu'on est toujours gênés quand ils parlent à ces chiens.
Les aliénacés vont bien.
J'ai découvert un jour, dans les années 80, 84, une personne, donc c'était Jean-Marie Le Pen, que je ne connaissais pas avant, qui tenait un discours où je me suis sentie enfin comme acceptée, comme arrivée dans une espèce de famille. Parce que, comme disait mon mari tout à l'heure, les faits maintenant sont là. Ce que Jean-Marie Le Pen a prévu dans les cités, hein, ces zones de non-droit, le fait que c'est toi qui changes de trottoir, les burqas, enfin tout ça, cet emprisonnement, ce boulet de notre propre esclavage qu'on se met nous-mêmes à nos pieds, il est là.
On a toujours été, c'est marqué dans tous les bulletins, quoi, respectueux envers les autres, agréable à vivre, etc.
Ouais, choc, c'était vraiment à l'école quand on s'est rendu compte que tout le monde n'avait pas été éduqué de la même manière.
Ça, ouais, un sens de l'honneur, en fait, qui fait que même si mes parents m'ont pas influencé politiquement, ils n'ont pas fait réellement ils n'ont tout simplement pas fait d'endoctrinage politique, puisqu'ils n'ont pas fait de politique quand j'étais petite. Mais cette valeur-là de l'honneur a fait que je n'ai pu me tourner que vers le Front National au moment où j'ai senti le besoin de m'engager politiquement.
C'est pour ça aussi qu'on s'est tourné naturellement vers Jean-Marie Le Pen, qui c'était en fait le seul homme qui disait ce qu'il pensait et qui était constamment mitraillé en fait par les autres. Ça intéresse pas beaucoup de monde à l'école, j'ai l'impression. Donc, non, je parle pas trop.
Avec tes copains quand même.
Ouais, quand même. Si c'est la classe moyenne, bon, ça va. Si c'est plutôt des bourgeois, c'est alors plutôt socialiste, donc c'est pas forcément très bien vu. Bon. Avec Marine Le Pen, c'est quand même un peu plus simple de se dire du Front National, parce que elle a quand même eu dédiabolisé le Front, c'est plus facile d'assumer ses idées, même si sur le fond ça n'a pas changé.
C'était un choix. Qui est dur aussi, qui était dur à faire au moment où on l'a fait. C'est-à-dire que, comme dit, quand j'avais 15 ans, c'était pas évident du tout. J'étais seule dans la cour du collège à dire que j'étais pour Le Pen. Et ça craignait encore à l'époque. Et donc, ça aurait été beaucoup, je dis souvent, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de ne pas être au Front National.
Le Front National, le logo, c'est la flamme, c'est l'espoir. L'espoir d'un jour retrouver notre nation, d'être de nouveau un grand pays. C'est pour ça qu'on est au Front National, parce que sinon j'aurais pas pris ma carte à 15 ans quand même. C'est parce que j'ai de l'espoir, on a c'est une raison de vivre également, le Front National.
Mon frère, c'est un philosophe. Je crois qu'avec ma grande gueule et sa philosophie, on pourrait monter un parti à nous deux.
Abraham. Il est 20h, voici les premiers résultats de ce second tour des cantonales en Alsace et on commence par le Haut-Rhin où il y a à nouveau des surprises, notamment à Huning et à Sirens.
Ça donne quoi?
40-60 à peu près. Ouais. Je m'arrête pas. Hein. Et au pire, je fais comme Marine Le Pen. Vous m'avez coupé le micro.
N'oublie pas la maltraitance. Hein, dont on peut. Elle a presque triplé ses voix. Elle passe de 16 à 41 à Bergholz.
Triplé à Bergholz. Lequel ?
40% pour Julia Abraham, qui est avec nous ce soir pour le Front National, qui était la candidate du Front National. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous avez 18 ans. Comment on entre en politique à 18 ans et pour le Front National ?
On entre en politique parce que c'est une passion. Et pour le Front National, puisqu'on veut défendre son pays et l'intérêt de ses concitoyens avant tout, et qu'on veut donner un nouveau souffle à la politique en France.
Est-ce que vous pouvez imaginer que pour un électorat, à 18 ans, on n'est pas forcément tout à fait crédible, et en fait c'est bien le Front National qu'on a voté et non pas Julia Abraham ?
On a sans doute voté les deux. Moi, je constate que j'ai quand même doublé mon nombre d'électeurs dans quasiment tous les villages de mon canton. Donc, je pense qu'on est crédible, oui, effectivement, puisqu'en plus, on donne peut-être une nouvelle image de la politique, un souffle de jeunesse que la population attend.
Dans 10 ans, quand je suis super connue, tu les revends sur eBay. Tu te fais, mais tu te fais 10 000 euros.
Et l'affiche que tu m'as dédicacée.
Non, mais alors là, t'as plus besoin de bosser, faire rentrer à lui.
La citation de Jeanne d'Arc.
Ouais, j'ai fait un truc en plus bien. J'ai mis les hommes d'armes combattront et Dieu donnera la victoire. Hein.
En fait, c'est une miniature de l'affiche électorale, quoi, le tract.
Ça fait longtemps que je l'ai plus vu sans la moustache, tu vois. Ça fait plaisir de le revoir de nouveau, naturel. On se refait un resto ? Pas de soucis. Ça finit toujours de la même façon. Hein.
Ça, j'ai remarqué, ça fait ça.
T'as remarqué ?
Il y a une bonne humeur là-dedans.
Une bonne ambiance. Hein. Mais tu vois, ça se finit toujours. Ça, c'est important aussi.
Même si vous avez perdu, entre guillemets, c'est qu'ils aient un jour fait devenir président.
De toute façon, ouais. C'est ce que j'allais dire. Je me représente aux autres élections. Il n'y a pas de souci, moi. Je re-signe dès qu'il faut.
Et là, je pourrais faire président.
Arte. Après, alors, président, je suppose. Écoute, je sais même pas, majeur.
On met apparemment faire l'expérience.
Radio. Oui, voilà. D'abord, des comme ça, tu vois. D'abord, il faut avoir une expérience. Mais les législatives ou tout ça, j'exclus pas de me présenter, tu vois.
Quoi ? Comme.
Voilà donc ce reportage audio qu'on est allé piquer, il faut bien l'avouer, sur arteradio.com. C'est, vous l'avez compris, notre base, notre fond sonore perpétuel à TVNR.
Mais ils ont des bons reportages.
Ils ont des très bons reportages. Alors on parlait de striptease tout à l'heure, parce que peut-être que les gens ne connaissent pas, enfin cette émission voilà, télévisuelle, striptease, qui est quand même une intrusion caméra au point dans le quotidien de certaines personnes, qui est plutôt le quotidien un peu risible. Alors là, on n'entend pas toute la partie, effectivement, ce que tu disais, Gérard, là, qu'on a coupé, qui est toute la partie quand même gratinée du quotidien de ces personnes-là. Voilà, merci Julia, candidate au FN. Mais ça a été fait en 2011, donc autant dire que depuis, à mon avis, c'est... Voilà.
Depuis, ça a dû pas mal changer, et il y aurait de quoi faire sans doute bien d'autres émissions comme ça, et peut-être moins drôles d'ailleurs, mais parce que bon, c'est vrai que quand ça prend une ampleur un peu plus importante, quoi, c'est plus forcément de la compréhension, c'est aussi bon, c'est tout un tas de, c'est ce que c'est vraiment l'air du temps auquel on fait face, c'est plus juste d'amusantes dispositions comme là, quoi.
Alors la différence que là, donc Julia, cette candidate là, elle, Julia Abraham, alors a priori elle s'appelle, elle est candidate au FN, mais effectivement le parti de la France, pour revenir un peu plus localement là, ce qui se passe à Pouilly-en-Auxois la semaine prochaine, le 7 novembre, le parti de la France, c'est donc les espèces de dissidents, donc c'est tout l'inverse de ce que peut dire par exemple le frère de Julia qu'on entend un moment dans le reportage là, qui dit depuis que le discours s'est peaufiné, s'est recadré, est un peu moins débordant de dégueulasserie et
le terme marketing, c'est dédiabolisé. Mais
voilà, dédiabolisé.
Peut-être qu'on peut l'éviter. Ouais. Mais...
Depuis que s'est passé ça, que Marine Le Pen a repris la succession de Jean-Marie, effectivement, lui, le frère, se dit en capacité d'assumer son affiliation au FN.
Mais que le fond est le même. C'est marrant, ils
ouais,
quand même.
D'ailleurs,
le fond, c'est la même chose. Et effectivement, le parti de la France, ils disent le problème, c'est que nous, on voudrait que la forme reste comme avant.
Ouais.
Mais sinon effectivement le fond pose pas de problème, et le désaccord entre le parti de la France et le FN porte là-dessus, justement sur la période de dédiabolisation.
Le marketing politique là à l'œuvre en ce moment, quoi.
En particulier au moment du mariage pour tous, où le parti de la France a pas du tout apprécié le positionnement du Front National, qui était plutôt en faveur du mariage pour tous. Ils ont même fait des coups de politique assez importants à ce moment-là, avec des figures gays qui ont rejoint le Front National à grands coups de discours médiatiques. Et donc ça passe pas pour l'ancienne garde, enfin une ancienne garde du FN, quoi, une certaine.
Et donc c'est eux qui organisaient jour de fête, c'est ça, déjà c'était
pour jour de colère
jour
de colère, ouais. je sais plus
c'était,
si c'est
un regroupement de...
c'était une nébuleuse un peu de tous les suites de la manif pour tous, tous ces partis qui sont un peu sentis pousser des ailes à ce moment-là, quoi. Voilà, peut-être pour approfondir, j'avais sorti un texte donc qui fait partie de la conclusion de Première mesure révolutionnaire, qui est un livre de Éric Hazan, écrit avec un certain Camo, et qui a été écrit en 2013, il me semble, 2012,
sorti à la fabrique pour.
Sorti à la fabrique, ouais. Qui donc essayait de manière un peu fictive de s'imaginer, bon voilà. Ça y est, il y a une révolution qui arrive. C'était après toutes les révolutions arabes. Il y a une révolution qui arrive. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, à l'inverse des révolutions arabes, le mouvement soit repris par l'ancienne caste dirigeante qui, du coup, reprend la main assez vite grâce au processus constituant que déploie le mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire, en gros, le cycle gouvernement provisoire, assemblée constituante, nouvelle constitution, et chacun rentre chez soi, et pouf, c'est fini. Et donc, du coup, première mesure révolutionnaire, c'est quelles mesures sont à appliquer directement pour éviter un retour, une irréversibilité d'un mouvement révolutionnaire. La conclusion, elle est un peu... Le livre en lui-même est facilement critiquable, il reste intéressant quand même. Toujours est-il que la conclusion, elle est un peu en écart par rapport à l'ensemble du livre. Elle nous met face, en gros, ce qu'elle dit, la conclusion, c'est on est dans une ère civilisationnelle qui est en train de s'effondrer. Tous ces fondamentaux, tout ce qui faisait qu'elle tenait debout, c'est en train de s'étioler, ça marche plus. Les structures sociales sont grignotées par le capitalisme lui-même, qui, en les détricotant, va chercher ses derniers débouchés. L'environnement est saccagé aussi pour aller chercher les derniers débouchés. Donc on est vraiment dans une civilisation mortifère, et dont le caractère mortifère fait que le délitement se poursuit jusque dans les derniers souffles de cette civilisation-là. Donc face à ça, forcément, cet effondrement civilisationnel, il nous amène devant plusieurs hypothèses, au moins trois, qui sont en gros l'hypothèse révolutionnaire, c'est-à-dire ne pas renoncer à la pensée révolutionnaire qui a traversé le 19e, le 20e siècle, et croire encore à l'émancipation des êtres, même au-delà des êtres, des choses. Et donc ça, c'est une des premières hypothèses. Une deuxième hypothèse qui est une hypothèse fascisante, où en gros, se crisper sur une époque révolue, une époque de grandeur révolue, dont on voudrait faire ressortir les plus beaux traits. Et enfin, une dernière hypothèse qui est accompagner le déclin, voire même accompagner l'effondrement, faire même du profit sur l'effondrement. Et ça, c'est l'hypothèse cybernétique, c'est-à-dire en gros gérer le dysfonctionnement grâce à tout un tas de processus gouvernementaux, à la fois intimes mais aussi d'autocontrôle, d'autogouvernement ou de micro-gouvernement, au sein par exemple d'une team à Décathlon, ça c'est assez exemplaire, de tout un tas de processus et de formes qui sont mises en place pour accompagner la remise en question perpétuelle de l'équipe en son sein, pour qu'elle évolue ainsi et soit complètement adaptée à la demande de la clientèle et du marché en général. Donc ça, c'est la dernière hypothèse, donc qui est l'hypothèse cybernétique, c'est-à-dire on gère l'effondrement à travers Facebook, à travers en même temps la gestion des déchets, à travers en même temps faire de l'argent après chaque catastrophe en reconstruisant, en utilisant en fait toutes les forces vives du corps social pour qu'il s'auto-contrôle par lui-même et qu'il gère sa propre perte, quoi. Voilà pour donc l'hypothèse cybernétique. Donc nous, ce qui nous intéresserait ici, ce serait plutôt donc l'hypothèse fasciste. Et j'avais extrait un petit bout de texte qui parle de ça, et je vais vous le lire. On sait tout le parti que le nihilisme postmoderne a su tirer d'une telle mise en question. Une apologie militante de la résignation, un désarmement de toutes les énergies naissantes, une version cultivée de la contre-révolution. Pour nous, le présent s'analyse en termes stratégiques. Et il est vital d'observer comment nos ennemis s'arment d'ores et déjà contre le bouleversement qui menace. Ces derniers temps, l'un des possibles est souvent évoqué sous la forme du retour aux années 30, le fascisme. Le mot est commode, mais pas juste. La référence au mouvement fasciste de l'entre-deux-guerres ne permet pas de saisir ce qui risque d'advenir, car ce qui caractérisait ces mouvements, le culte du chef, les troupes bottées de cuir, la valorisation de l'héroïsme guerrier, l'idéologie de l'irrationnel, tout cela n'est plus de notre temps. Plutôt que de fascisme, on pourrait parler d'une imprégnation fascistoïde, en cours dans des pays où se sont désintégrés la confiance et le respect envers les gouvernants, les élites, les partis et les syndicats. Elle tire sa virulence de la détestation des étrangers. L'antifascisme est encore une fois un leurre, parce que le fascisme se nourrit de la haine de la corruption démocratique. La réaction au fascisme vient le revigorer encore en donnant l'impression de soutenir l'ordre démocratique existant. C'est la poussée révolutionnaire, l'éveil fraternel de toutes les énergies, comme dit Rimbaud, qui renverra les apprentis fascistes à leur néant.
Ravir, s'abriter pour dormir, fuir, traverser des écarts de forêt, tremper, glisser, écorcher, pâlir.
Je meurs de froid et je ressens une douleur qui raille par le choix pour en toucher à fuir, 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 fuir.
Fuir, souffrir, tremper, marcher, errer, perdu sur la piste enneigée. Entendre au loin les chants s'approcher.
Je meurs de froid et je ressens une douleur qui raille par le choix de rencontrer ma vie.
Voilà, c'était Fuir de Tollard, une petite musique voilà, dans l'air du temps.
Tout est dans l'air du temps,
tout
en fait.
Dans l'air du temps aujourd'hui. Ok, tu voulais parler d'un dernier truc. Tu continues sur.
Non, c'est. Allons-y, soyons fous.
Allons-y. Alors voilà, c'est un texte d'Emmaüs.
Qui va dans le sens de donner un tout petit peu de répondant à cet air du temps un peu. Donc du coup, comme on a dit, nous avons et où du coup, bon, l'air du temps n'est pas que ça, comme on dit. C'est aussi Tollard, c'est aussi des prises de position récentes d'Emmaüs France sur la question des migrants à Calais, qui sont plutôt enthousiasmantes. Et voilà, qu'on voulait mettre en avant ici, quoi.
Ça a été écrit quand, ça, tu sais, ou bien?
C'est très récent, je dirais moins d'un mois, mais plus précisément, je ne vois pas.
Allez, je vous lis. Révolté par l'inertie malsaine du gouvernement et par l'incapacité de son ministre de l'Intérieur à apporter enfin des réponses adaptées à l'ampleur de la catastrophe humaine à Calais, j'ai décidé, à l'issue de la réunion présidée par Bernard Cazeneuve, de rompre tout dialogue avec le gouvernement, au nom de l'ensemble du mouvement Emmaüs. Sciemment, délibérément, par aveuglement ou perfidie, le gouvernement se refuse à prendre des décisions qui seules seront de nature à apporter dignité et respect des droits fondamentaux aux 3000 personnes actuellement bloquées à Calais, dans des conditions insupportables et honteuses pour notre République. Les acteurs du mouvement Emmaüs, en particulier les communautés du Nord-Pas-de-Calais, sont tous les jours aux côtés des migrants pour leur apporter aide et soutien. Dans le même temps, avec nos partenaires associatifs, nous n'avons eu de cesse d'alerter et d'interpeller les autorités sur le décalage abyssal entre l'indécence des moyens mis sur la table et ceux qu'appelle la réalité de la situation. Le plus choquant est d'entendre les représentants du gouvernement se féliciter de la création du centre Jules Ferry, quand on sait qu'il n'abrite qu'un nombre infime de femmes et d'enfants, laissant des millions de personnes dormir dehors, sauvagement, « encampées », entre guillemets. Une catastrophe à grande échelle s'annonce à Calais dans les jours qui viennent à l'approche de l'hiver. Notre priorité reste le combat politique pour l'ouverture des frontières avec l'Angleterre et la renégociation des accords du Touquet. Nous condamnons la position, encore fermement exprimée par le ministre lors de cette réunion, qui persiste à écarter cette solution sous couvert de la théorie infondée de l'appel d'air. Nous déplorons qu'un accueil digne, qui apporte au minimum toit, vivre, soins et accompagnement social, se négocie petitement avec des bouts de chandelle. Nous refuserons toujours de trier parmi ceux qui souffrent, périssent et meurent de faim. Emmaüs entre définitivement en guerre contre cette politique punitive, criminelle et destructrice. Nous ne voulons pas servir d'alibi à une catastrophe cyniquement organisée au plus haut sommet de l'État et dénonçons une tentative d'instrumentalisation des associations. La montée des extrêmes dans notre pays impose plus que jamais du courage politique pour gagner le combat des valeurs. Le mouvement entre en résistance active. Le gouvernement devra assumer seul les conséquences humaines de sa politique irresponsable. Voilà, donc c'est le président de l'association Emmaüs France qui écrit ce texte il n'y a pas longtemps.
Ce qui est bien, c'est que ça adosse, ça renvoie dos à dos un peu la montée, comme il le dit, la montée des extrêmes à la politique gouvernementale qui est cynique et inhumaine. Donc voilà, ça permet un peu de tordre le cou à ces idées de, selon lesquelles le gouvernement collaborerait activement à l'implantation des migrants, je sais pas où. Ça clarifie un peu les choses et ça fait pas de mal. Ça fait garder la foi dans l'éveil fraternel de toutes les énergies, comme dit Rimbaud.
Exactement. Et notamment avec Emmaüs, quoi. En vrai, c'est quand même un peu... c'est surprenant de la part d'Emmaüs, parce que c'est à la fois des gens qui naissent d'un certain mouvement, mais qui
ont des positions assez...
Effectivement, depuis très longtemps, jouent le jeu de réinsertion sociale,
du travail social, financé par l'État. Ouais.
Ah, exactement. Et puis qui, là, au bout d'un moment,
dit stop, ouais. Voilà,
entre en guerre. C'est quand même effectivement plutôt à la fois surprenant et plutôt rassurant que des partenaires, a priori, de cet ordre-là, de cette tradition-là avec l'État.
Donc au final, l'ère du temps est électrique.
Électrique, voilà. Comme le disait un fameux Minotier il y a peu de temps, l'ère du temps est pré-révolutionnaire, quoi, finalement.
On touche à la fin de cette émission.
Vous pouvez retrouver toutes nos émissions, le contenu de cette émission-là, toutes les photos de l'équipe de TVNR, les profils Facebook, etc. sur tvnr.noblogs.org.
Et assez sérieusement, tous les documents qui accompagnent les émissions et qui permettent un peu de... Pour ceux que ça intéresserait de fouiller davantage, hein, parce qu'on n'a pas prétention à livrer du tout fait et du prêt-à-porter, c'est tout à fait possible grâce à ce site qui compile tout un tas de documents nécessaires à l'approfondissement des questions qu'on esquisse et touche du doigt au cours de nos émissions.
À bientôt sur les ondes du 92.2. Ciao.
Salut à tous.
Salut.